L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Montagne de la Sierra Madre. En plein milieu d'une nuit de pleine lune. Vous ne savez pas où vous êtes? Le jeune Sébastien Guerrero non plus. Au nord du Mexique, entre les forêts touffues d'un côté et de hautes roches oscillant entre 2500 et 3000 mètres d'altitude de l'autre. Oh, pour le reste, le jour a disparu depuis longtemps et le jeune homme de 14 ans est en quête d'un refuge pour dormir quelques heures. Déscolarisé, le môme est un amoureux de la région. Il a fui la pauvreté de sa famille en partant quelques jours en excursion, sans même un sac à dos. Il connaît la nature, les plantes qu'il peut manger, l'eau claire et celle croupie qu'il doit éviter. Il ne fait qu'un avec son environnement et il n'a peur de rien. C'est ce qui fait sa force. Son rêve, c'est d'un jour quitter sa condition de fils de paysan pour devenir guide nature, un poste à sa mesure. Il accompagnerait le peu de touristes du coin et passerait avec eux quelques jours au creux des montagnes. Alors qu'il arpente un pic rocheux donnant sur un plateau éclairé par la lune, Sébastien longe une de ces grottes qui sont nombreuses dans la région. Mais dans celle-ci, à sa plus grande surprise, le môme, bâton en main, distingue de la lumière qui éclaire le fond de la cavité. Il tend l'oreille. Ouais, des gens sont en train de parler, de prier plutôt. Poussé par la curiosité, il n'hésite pas à mettre un pied en enfer. Il n'aurait pas dû. Nous sommes le 22 mai 1963. Les feuilles des arbres tremblent de terreur. Il est 1h30 du matin et c'est leur hache de mon histoire. Les premières foulées du gamin dans le trou de pierre sont hasardeuses. Disons qu'il ne fait pas le malin. Autour de lui, les éléments dans la nature tentent de le retenir. Les arbres lui parlent, les animaux de la forêt glapissent, murmurent. Mais lui, leur gardien préféré, est trop absorbé par cette lumière presque blafarde qui semble se dégager au fond de la cavité. C'est la toute première fois qu'il tombe sur quelque chose de ce genre. Ses parents, croyants, lui ont bien parlé de la présence dans les montagnes de la Sierra Madre d'esprits anciens. Ce sont ceux des dieux incas, relapses d'anciens cultes tombés en désuétude et animés d'une volonté de vengeance. Les pieds lourds de la terreur ancestrale qui pèse sur ses épaules, le jeune homme tend l'oreille, se méfie. Mais il ne peut cependant pas résister à la tentation d'avancer, encore et encore. Plus il s'enfonce, plus les habitants de la grotte se réveillent. Les chauves-souris, abasourdis, de voir arriver un compagnon se faufilant sous leurs ailes, s'envolent en hurlant. La lumière, elle, dévoile maintenant les parois, là, au fond. La lune, dehors, de son éclat, ne protège plus le petit garçon, ses membres, ses sensations. Tout le pousse à remonter à la surface. Mais Sébastien continue. Il y voit là un mystère à percer, d'autant que des voix à peine perceptibles à la surface se détachent et se distinguent. Il y aperçoit même celle d'une femme, un peu plus loin, qui semble guider d'autres gens. Et entre chaque phrase, toujours le même refrain, latent, ressort. Ce long et sourd murmure accompagne chacun de ses pas. Et si les parents avaient raison sur la présence des esprits des anciens dieux, hein? Est-ce vraiment une bonne idée d'aller vérifier cela de ses yeux? Oh, assurément pas. Mais le môme est loin d'être un peureux. Au mieux, il a des choses à se prouver. Alors il avance, guidé par cette entêtante mélodie qui semble le mener vers les dédales de l'enfer, ce... Cette fois, le murmure devient plus clair. Résonne sur les parois rocheuses. Des gouttes d'eau qui tombent dans de petites flaques rythment l'étrange instant qui se passe autour de lui. Le gamin s'agrippe à son bâton de toutes ses forces, comme rassuré de pouvoir compter sur un compagnon dans l'adversité. Encore quelques pas et il trouvera ses réponses. La lueur devient plus forte. Il aperçoit même, au fond du couloir de pierre, des torches dont la flamme lèche les parois. Il est tout près. Dans ses oreilles ne cesse de bourdonner l'incessante mélopée qui envoûte et attire. Ce fameux... Un gros rocher au bout de l'allée sera son refuge. Grâce à sa petite taille, Sébastien se glisse entre lui et l'immense mur de la cavité. Plus rien ne le raccroche à son monde, celui des oiseaux et des arbres. Il a rejoint l'autre monde, celui des profondeurs et des murmures. Par un trou à peine plus large que ses yeux, le jeune homme peut contempler la scène sans être vu. Là, un pentacle est dessiné au sol. En cercle, plusieurs dizaines de personnes se tiennent debout, une torche à la main. Ils écoutent religieusement une femme qui, vêtue de blanc, chante. Elle tient dans sa main gauche un couteau si grand que Sébastien en est terrorisé. Elle est entourée par deux hommes, vêtus plus richement que les autres et qui se ressemblent. Des gardiens de la nuit, encadrant une déesse en transe. Voilà comment on pourrait décrire cette vision qui semble n'être qu'une digression de l'esprit d'un jeune homme qui aurait avalé par mégarde des plantes hallucinogènes. Mais ce n'est pas le cas. Ces gens, là, droit devant lui, sont bien réels. Les parois de pierre, comme pour protéger ses yeux innocents, lui bouchent une partie de la scène. Mais Sébastien n'a pas demandé à être dissimulé. Il veut voir. Alors il se découvre, il se décale. Il est presque à la merci de cette femme en blanc. Devant elle, un homme à genoux ne porte pas de masque, contrairement à tous les autres. Il pleure, les mains jointes. Il semble désespéré et avoir peur. Le sang de Sébastien se glace. Rapidement, son esprit en avance se confronte à la réalité des événements. Il réalise l'horreur de la scène qui se joue devant lui. Cette femme, ce couteau, cet homme. Mais c'est un sacrifice auquel il assiste. Le jeune garçon n'a pas le temps de souffler, de détourner le regard que la lame scintillante s'enfonce dans la gorge du pauvre malheureux devant lui. Dans un râle horrible, il s'effondre et son sang, rouge, épais, jaillit en jets immondes et discontinus, éclaboussant les roches et les habits des témoins. Le marmot est horrifié, pas les autres. Leur comportement stoïque est absolument édifiant. Et voilà que le murmure est de retour. D'un geste, la prêtresse, ou peut-être est-ce une déesse, attrape une coupe d'or recouverte de pierres qui semble précieuse. Elle la glisse sous la gorge sanguinolente du malheureux et en emplit le contenant. Sébastien voudrait partir, mais ses jambes, lourdes, immobiles, refusent de lui obéir. Alors ses yeux balaient une nouvelle fois la scène et... ce qu'il s'y passe. Tous les membres présents dans l'assemblée, chacun leur tour, vont boire une gorgée du sang frais du sacrifié. L'horreur se lit maintenant sur le visage devenu blanc du petit garçon. D'un coup, il sent ses sensations lui revenir. Il ne se fait alors pas prier, mais son démarrage, rapide, ne se fait pas sans bruit. Sa semelle frotte sur les gravillons et le bruit qui se dégage emplit toute la cavité. Sébastien, lui, ne s'arrête pas. Derrière lui résonne déjà une terrible voix qui, de son écho grave et puissant, remonte toute la paroi rocheuse de la grotte. « Attrapez-le !» Les hordes de l'enfer, derrière Sébastien, se mettent en marche. Le destin du jeune curieux ne tient plus qu'à un fil. Sébastien, bientôt, verra les lumières de la lune. À ses trousses, les lueurs s'intensifient. La secte se rapproche irrémédiablement, mais le petit garçon a pour avantage d'être agile et de se faufiler au travers des roches comme un animal traqué. Alors, il atteint plus vite la sortie de la cavité de l'horreur et se met à courir. Pas dans n'importe quelle direction. Il sait où il se rend. Ville-la-Grand, la ville la plus proche. Celle qui, entre autres choses, dispose d'un service de police. Le problème, c'est qu'elle se situe à 25 km, rien que ça. Derrière lui, les cerbères et autres créatures des profondeurs lancées à ses trousses se font de plus en plus petits. S'enfonçant dans la forêt et se dissimulant entre les feuilles qui sont ses amis, Sébastien les sème avec une déconcertante facilité. Même la lune, qui de son éclat illuminait il y a encore quelques minutes toute la région, s'est dissimulée derrière un voile pour l'aider dans sa fuite. Sans se retourner, Sébastien trace sa route, sans jamais baisser sa vitesse. Ses chaussures, dont les semelles sont bien modestes, souffrent dans les ronces et les flaques. Oh, peu importe. Il continue encore et toujours. Bientôt, les lueurs qu'il pouvait encore percevoir derrière lui disparaissent. Et plus haut, dans la montagne, un cri qui lui glace le sang retentit dans la nuit et envahit la forêt. Celui de la prêtresse, celui de la mort. Débarrassé de ses ennemis, Sébastien ne ralentit pas pour autant son allure. Non, il doit se dépêcher. Le cœur au coin des tempes, le gamin ne ménage pas ses efforts. Il va courir ainsi durant des heures. Tel Thémistocle à marathon, le marmot se lance dans une course effrénée vers les services de police. Ses parents avaient tort. Ces gens là-haut n'ont rien de Dieu. Ce sont des malades, bien mortels, qui se servent des montagnes pour se cacher et commettre leurs méfaits. Cet endroit du monde le permet. Après des heures de trajet entre route et forêt, alors que la lune se couche pour laisser place au soleil, Sébastien arrive devant le poste de police. Assis dans des rocking chairs, trois hommes café en main observent ce gamin transpirant avec un regard soupçonneux. Il s'arrête, hébété et le souffle court, tente de parler à ces hommes qui font figure d'autorité. Je m'appelle Sébastien Guerrero. J'habite au cœur des montagnes de la Sierra Madre et cette nuit j'ai été le témoin d'un sacrifice humain. Ces paroles sont accueillies par un éclat de rire collégial des policiers, comme si un gamin pouvait courir et se déplacer sur une vingtaine de kilomètres en pleine nuit. Non, à d'autres. Il y a tout de même dans l'assistance un officier qui regarde le gosse d'un œil moins critique que les autres. Il est persuadé que Sébastien est un menteur, mais peut-être a-t-il besoin d'attention. Et alors que ses collègues se moquent du pauvre gosse, sans même prêter attention à ce qu'il raconte, il les coupe d'un geste de la main. « Sébastien, pourrais-tu retourner à l'endroit où cela s'est passé ?» Le petit garçon, rassuré de voir que quelqu'un croit enfin à son histoire, se jette dans la brèche. « Bah oui, monsieur, évidemment, je connais bien les montagnes. C'est un peu ma deuxième maison. » Le policier sourit. Le regard du môme est traversé d'une lueur particulière. L'intuition de l'officier d'avoir affaire à un menteur s'amenuise, mais ne disparaît pas totalement pour autant. « Va dormir, gringo. Demain, tu me guideras jusqu'à ta caverne aux mensonges. » Sébastien ne lui répond que par un soupir de désespoir. Dans quelques heures, l'improbable duo retournera sur les lieux de la vision d'horreur. Et vous pouvez me croire, ni l'un ni l'autre ne seront déçus du voyage. Leur quête entre irréel et réalité va les mener vers l'horreur et vers la mort. Notre histoire, elle, commence quelques mois avant cet horrible épisode vécu par le jeune Sébastien. Nous sommes dans un petit village dans les montagnes de la Sierra Madre, du nom de Yerba Buena. Ici vivent reclus et à l'écart du monde qui change une cinquantaine de fermiers. L'agriculture est dans cet endroit reculé la seule source de revenus possible. Enfin de revenus. Tout le monde ici est pauvre, profondément. Ils sont peu nombreux dans ces montagnes à avoir reçu une éducation scolaire minimale leur permettant de prétendre à une vie meilleure. D'existence paisible, il n'y a pas ici. Dieu semble avoir abandonné ce village et ses habitants qui se battent chaque jour pour obtenir de quoi manger. Les enfants sont maigres, leurs parents sans espoir. Un jour plus maussade que les autres, sortant de nulle part, deux hommes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau se sont présentés à la communauté. Ils s'appellent les frères Hernandez. Et c'est Lascar, venu de la ville, vont faire croire aux villageois une bien curieuse histoire. Ils seraient les messagers des dieux incas, jadis vénérés et aujourd'hui réduits au silence. Ces prophètes arrivent porteurs d'un message. Les divinités, se sentant abandonnées, sont sur le point de revenir. Et elles vont punir avec terreur et fracas celles et ceux qui se sont détournés d'elles. Seuls ceux qui iront pratiquer, dans les grottes des montagnes alentour, des rites d'offrande et le versement d'une tribu seront sauvés. Le stratagème, pourtant particulièrement hasardeux, vous en conviendrez, va fonctionner. Les frères Hernandez ne sont pas des prophètes. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps. Ils ne sont que de petites frappes venues de Medellin et qui, depuis déjà quelques mois, ruminent leur plan et ciblent la petite communauté de Yerba Buena. Ce n'est pas par hasard qu'ils se sont arrêtés dans ce village. Peu d'habitants, peu d'accès pour atteindre cette zone reculée, pas de service de police sur place et surtout un taux d'analphabète qui crève le plafond. La communauté de Yerba Buena est sans nul doute la cible idéale pour monter une arnaque aux dieux incas. Pour autant, les frangins Hernandez ne font pas les fiers au moment de mettre en place concrètement leur plan machiavélique. Il suffit d'une famille de récalcitrants pour mettre à mal leur business. Mais les malfrats ont vu juste. Lorsque, sortant de la brume matinale tels des fantômes, vêtus de toges noires, ils se présentent comme les grands prêtres, les familles isolées se jettent à leurs pieds, sans même discuter ni chercher à comprendre. Elles ne se posent pas la question de savoir ce qui peut bien amener des gringos de ce genre au cœur de leur montagne. Non, les anciens dieux leur donnent une chance, à eux, de s'en sortir. Magnifique. Le discours est rodé, la mise en scène absolument parfaite. Les frères Hernandez ont repéré les lieux, visité les grottes leur permettant de mettre en place leur soi-disant rite. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'étau ne se resserre complètement autour des paysans. D'ailleurs, au bout de quelques jours, ils commencent à récolter l'impôt, à organiser des cérémonies de sacrifice animalier. Des chèvres sont conduites dans les grottes et égorgées. Les frères Hernandez promettent que les dieux offriront des trésors aux paysans et qu'ils se révéleront à eux. Ils doivent faire preuve de patience, évidemment. Et surtout, ils doivent leur abandonner les ressources de leurs maigres revenus à eux, ces arnaqueurs venus de la ville. Leurs poches, bientôt, se remplissent de pièces. Mais soyons francs, les frères Hernandez ne font pas fortune. La communauté est pauvre. Pour autant, à chaque cérémonie, les pièces tombent, tout autant que les promesses d'apparition divine. Il faut tout de même remarquer, non sans ironie, que les dieux incas n'ont jamais été vénérés au Mexique, mais dans les territoires péruviens, bien plus au sud. Les Hernandez, pas beaucoup moins que leurs victimes, sont donc des ignorants, mais ils sont dangereux. Et rapidement, leur petite secte commence à diversifier ses activités. Quelques semaines après leur arrivée, les frères Hernandez annoncent devoir désormais pratiquer des rites sexuels sur les jeunes femmes et les jeunes hommes du village, afin que les dieux apparaissent plus vite. La communauté, hélas totalement sous leur emprise, tombe encore dans le panneau. Mais ils ne s'arrêtent pas là, les grands prêtres. Pour faire passer la pilule plus facilement, ils n'hésitent pas à droguer leurs victimes, et même à les vendre à des hommes riches en quête de sensations. Ils deviennent proxénètes, si vous préférez. Et le piège, lui, continue de se refermer sur les habitants de Yerba Buena. Cela ne va pas durer aussi longtemps que prévu. Docile, la communauté va se plier aux exigences mortifères de ses bourreaux, sans rien dire, durant des semaines et des semaines. Et puis, au bout d'un peu plus de 3 mois de sacrifices en tout genre, les chefs de famille vont se rebeller et exiger des comptes aux grands prêtres. Où sont ces dieux qu'on leur a promis? Et surtout, où sont les trésors qui vont avec? Ils sont dépouillés depuis des mois sans aucun résultat. Certains, enfin, commencent à flairer l'arnaque derrière le numéro grandiloquent des frangins Hernandez. Ces derniers se retrouvent au pied du mur. S'ils veulent garder leur emprise sur la communauté, ils devront redoubler d'ingéniosité, d'autant que les habitants se font de plus en plus pressants. Ils doivent rapidement trouver une alternative à leur plan. L'un des deux frères a une fulgurance. Il leur faut une déesse. Oh, pas une vraie, bien entendu. Faire sortir une nouvelle figure de nulle part et manipuler les habitants par sa beauté est une manœuvre qui peut fonctionner. Les deux gourous se mettent donc en route, en direction de Monterrey. C'est dans l'une des plus grandes villes du pays qu'un homme les attend. Il a trouvé pour eux le profil parfait. Sa sœur, malléable, corvéable et néanmoins violente, est le profil idéal. Elle s'appelle Magdalena Solis. Son nom, bientôt, résonnera dans les montagnes du Mexique comme un synonyme de terreur. Prostituée par son frère depuis des années, Magdalena se laisse embarquer dans l'affaire. Les frères Hernandez, forts du tribut payé par les habitants durant des mois, négocient en direct avec le frangin de la jeune femme. Ils la rachètent tout bonnement et décident de la ramener dans les montagnes à Yerba Buena. Le départ prolongé des deux grands prêtres a plongé les habitants dans la panique de ne plus jamais les voir revenir. Ils n'ont pas été déçus. Un soir, dans l'une des grottes de cérémonie habituelles, au début du printemps 1963, les deux hommes perpétuent un rite comme ils en ont l'habitude. Une chèvre, de nouveau, est sacrifiée. Mais cette fois, les deux frères font semblant d'appeler les dieux à se manifester. Derrière eux, derrière les pierres, a été savamment dissimulé un écran de fumée rose bonbon. Oui, vous avez bien entendu, rose bonbon. Magdalena Solis s'en sort et se présente face à la foule, abasourdie, comme la réincarnation de la déesse Coatlicue. Toute la communauté tombe dans le panneau et se prosterne aux pieds de la jeune femme et des frères Hernandez. Pour eux, c'est gagné. Toutes les économies du village sont rapidement réunies et mises à la disposition de Magdalena Solis qui prend très vite la grosse tête. Bon, précisons à toute fin utile que Coatlicue est une divinité aztèque et non inca. Mais bon, nous ne sommes plus à une incohérence mythologique près. Cependant, et alors qu'ils pensaient maîtriser la situation, les frères Hernandez vont se faire doubler. Non pas par les habitants qui seraient sortis de leur torpeur, mais par Magdalena elle-même qui, au-delà du rôle qu'elle joue, va totalement sombrer dans la folie et croire qu'elle est réellement la nouvelle déesse de la fertilité et mère de tous les dieux de sa mythologie. Psychologiquement fragile avant son arrivée dans les montagnes, Solis va perdre pied et bientôt prendre le pouvoir sur toute la communauté. Les chèvres ne seront plus dans quelques jours les seules victimes de ces terribles agissements. Et souvenez-vous, un adolescent témoin de ces crimes est en route, avec un officier de police dubitatif, afin de prouver à la civilisation qu'il se trame quelque chose de malsain dans les montagnes mexicaines. Le voile tombe sur la Sierra Madre et ses forêts. Nous sommes le 31 mai 1963, aux abords du village mexicain de Yerba Buena. La forêt ce matin est tout sauf calme. Elle vibre d'effervescence. En nombre, les forces de police des plus grandes villes sont sur le pied de guerre. Le soleil inonde de toute sa puissance le paysage, depuis les feuilles des arbres jusqu'aux toitures, tout sauf uniforme des fermes composant la petite bourgade. Tout est calme. On dirait qu'il n'y a ici nulle âme qui vive. Enfin, pas tout à fait. Le lieutenant Sanchez est en attente. Il va bientôt donner l'ordre de lancer l'assaut. Ses repérages de la nuit précédente ont été fructueux. Les membres de la secte ont été vus dans une grotte, en plein milieu d'une séance de prière. Avec eux, l'un des frères Hernandez. L'autre manque à l'appel. Et dans le village déserté, une seule ferme aux lumières allumées témoigne d'une présence. Cette maison est celle de la chef de file du mouvement, Magdalena Solis, qui est accompagnée de son frère. Le lieutenant, tout en caressant sa moustache, regarde sa montre. Il est l'heure. Un seul coup de sifflet, et la forêt sort de sa torpeur. Les premiers coups de feu résonnent, les cris retentissent. La Sierra Madre devient, en l'espace de quelques instants, une zone de guerre. Sanchez, posté près de la ferme, entre le premier dans le bâtiment. Les deux occupants n'ont pas le temps de se saisir d'une arme qu'ils sont plaqués au sol. Directement, le lieutenant se jette sur Magdalena Solis. « L'enfant et le policier, où sont-ils ?» Pas de réponse. La femme sourit. Provocation ultime d'une détraquée notoire. Voilà deux jours que le petit Sébastien et l'officier de police qui l'accompagnait ont disparu sans laisser de traces. Ah, les collègues du poste de police s'étaient moqués du gamin. Il n'aurait pas dû. Le lieutenant Sanchez se relève, allume son toki. Il demande des nouvelles de l'assaut de la grotte. C'est un véritable carnage. Reclus entre les pierres, les membres de la secte se sont saisis d'armes, guidés par l'un des frangins irlandaises, et ont canardé les forces de l'ordre. Une sommation a été lancée par la police. Pour seule réponse, cette dernière a obtenu des salves d'armes automatiques. Ils ont voulu la violence, ils l'auront. Rapidement, la grotte devient un véritable bain de sang. Les membres de la secte, plus habitués à se servir d'outils agricoles que de fusils d'assaut, ne font pas le poids et tombent les uns après les autres. Bientôt, ne résonnent plus dans la caverne que des cris et des lamentations. Tous les survivants sont arrêtés sans ménagement. Les agonisants, eux, sont laissés sur place. C'est le cas du grand prêtre Hernandez qui, désarticulé sur l'autel, l'arme à la main, expire, victime de plusieurs balles dans le thorax. La partie est terminée en quelques heures. La secte sanglante de Magdalena Solis n'existe plus. Les investigations, enfin, peuvent commencer. Les terribles événements qui ont eu lieu durant des mois sur la Sierra Madre se terminent donc dans le sang et dans l'épreuve. Les forces de police qui, au début de l'affaire, s'amusaient moqueuses du témoignage du petit Sébastien, doivent bien constater leur échec. Le petit garçon de 14 ans avait malheureusement raison. Sa vision d'horreur de la mi-mai, au creux des montagnes, n'était pas une vision émanant d'un cauchemar plus réel et prenant que les autres. Non, les frères Hernandez et Magdalena Solis sont des personnes bien réelles, qui terrorisent toute une communauté du fait de leurs agissements. Pour autant, les enquêteurs se retrouvent rapidement dans une impasse qui paraît, l'espace de quelques heures, totalement inextricable. Les frères Hernandez sont morts. L'un tué par la police lors de cette fameuse journée du 31 mai, l'autre victime d'un coup de folie d'un des membres de la secte, l'arroseur arrosé en quelque sorte. La grande prêtresse, elle, qui n'était pas présente dans la grotte avec les autres membres, mais confortablement installée dans sa ferme avec son frère, a été arrêtée. Mais il y a pourtant un gros problème. Rien ne permet de la relier à la disparition du policier et du petit Sébastien. Et sans corps, pas de preuves, évidemment. Lorsque les policiers demandent à Solis ce qu'elle a fait d'eux, elle se contente de rigoler. Elle refuse d'avouer quoi que ce soit aux forces de l'ordre. Les membres qui ont survécu à l'assaut dans la grotte, la grande prêtresse et son frère, tous sont emmenés sous bonne garde dans des cellules. Les cavités sont visitées. On retrouve des corps, décomposés pour la plupart, mais aucun qui ne permettent de prouver une quelconque implication de la réincarnation de Coatlicue. Certains sont démembrés, témoignant d'une mort violente, mais ils sont surtout bien trop abîmés par les affres du temps pour être identifiés. C'est peine perdue. Alors, comme une tentative de la dernière chance, les équipes de la police scientifique vont se mettre à fouiller autour de la ferme dans laquelle la tête pensante de l'organisation a été arrêtée. Et là, c'est le jackpot. Du moins, si l'on peut dire. Deux corps, fraîchement enterrés, sont mis au jour. L'un d'entre eux est celui d'un enfant. Les pires pressentiments des équipes de police se matérialisent donc. Le petit Sébastien n'a pas survécu. Sa dépouille est horriblement mutilée et laisse présager qu'il n'est mort qu'au prix d'atroces souffrances. À côté de lui, le corps inanimé de l'officier de police qui, deux jours avant, avait accepté de l'accompagner sur les traces de ses visions. Il n'est pas dans un meilleur état. Pire, il a été torturé davantage. Son cœur a été arraché de sa poitrine, qui, vide, a été comblée de terre sèche. Les policiers, évidemment, sont partagés entre l'horreur absolue de retrouver leur ami et le garçon dans cet état et le soulagement de pouvoir relier ces deux corps à la fratrie Solis, qui résidait dans le bâtiment jouxtant l'endroit où les dépouilles sont exhumées. Les deux Solis sont confrontés à la découverte qui vient d'être faite, mais ni l'un ni l'autre n'acceptent de témoigner ou de se livrer. C'est le grand silence. Séparés des autres membres de la secte, les Solis se retrouvent livrés à eux-mêmes face à la police et bientôt à la justice. Pour l'ancienne gourou et son proxénète de frères, c'est l'enfer qui s'ouvre sous leurs pieds. Les frères Hernandez, eux, les y attendent déjà. Nous sommes à Mexico, capitale d'un pays qui vit depuis plusieurs mois au cœur de l'horreur. Depuis le 31 mai 1963, la déesse sanguinaire et toute sa secte ont été mis hors d'état de nuire. Les frères Hernandez sont morts et elle, Magdalena Solis, est derrière les barreaux. Jugée depuis quelques mois déjà, elle a été condamnée à la peine maximale autorisée par la législation du pays, à savoir 50 ans de prison. Cependant, le résultat de tout le processus est assez difficile à avaler pour les familles des victimes. Magdalena et son frère, son complice de toujours, ont été condamnés à la même peine, mais n'ont été accusés que de deux meurtres, c'est tout. Ceux du policier et de Sébastien, le petit témoin des agissements de la grotte. Ce sont leurs corps meurtris, découverts comme nous l'avons vu plusieurs jours après l'arrestation musclée des membres de la secte, qui auront permis d'inculper les deux bourreaux. La principale interrogation, au fond, réside dans le fait de comprendre comment et pourquoi Magdalena Solis a seulement été mise au pilori pour deux meurtres, alors que les sacrifices humains, la secte en a réalisé à l'appel. La justice aurait pu être en mesure d'ajouter à l'accusation six autres meurtres. L'explication de cet échec tient en un seul mot, l'embrigadement. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les membres passifs de la secte, les villageois et donc les victimes du trio infernal ont tout simplement refusé de témoigner contre la grande prêtresse. C'est au fond un parfait exemple de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. En se faisant passer pour des divinités ou leurs prophètes, les ravisseurs, les bourreaux et dans le cas présent ceux qui ont tué, obtiennent, outre la vénération imposée par le rite pseudo-religieux, la sympathie de leurs victimes. C'est ce qui explique aussi l'intense résistance des membres du mouvement contre les forces de police le 31 mai 1963. Solis et son frère, donc, se retrouvent absous de nombreux péchés commis. Et les familles des victimes, sans les précieux témoignages attendus, n'obtiendront pas justice. Ce silence pesant, cette terrible chape de plomb, va s'abattre sur le Mexique durant de très nombreuses années. Les Solis partent en prison pour purger leurs peines respectives, mais les langues, elles, ne se délient pas pour autant et pour cause. Si vous pensez que les membres passifs du mouvement ont été acquittés à cause de leur embrigadement, vous vous trompez. Évidemment, leur mise sous cloche par les frères Hernandez et la réincarnation de la déesse Coatlicue fut considérée comme un élément de circonstance atténuante. Pour autant, la rixe de l'arrestation leur coûta cher. Tous les survivants ont été condamnés à purger une peine sévère et implacable de 30 ans de prison. Impossible pour eux donc de parler dans la presse. Il faudra attendre leur libération pour voir, par bribes très éparses, certains des anciens membres se confier sur les horreurs qu'ils ont vécues. Ce qu'ils décrivent est atroce et ne peut décemment être raconté ici. Ce que nous apprennent leurs récits, en revanche, est cette implacable force d'endoctrinement que le trio diabolique sera parvenu à maintenir sur une population pauvre et analphabète, poussant ses paysans à commettre et accepter les pires des sévices. La profondeur des abysses du genre humain est diabolique, impénétrable et donne le vertige. Assurément, le cas Magdalena Solis ajoute à ce tableau déjà funeste un niveau supplémentaire et immonde. Pour résumer, la prétendue déesse se rend rapidement compte que les orgies et les cérémonies de sacrifice animalier ne vont pas l'amuser longtemps. La secte se transforme rapidement en une machine à tuer lors de l'arrivée de la grande prêtresse. Deux membres, pas convaincus par son apparition divine, ont demandé aux deux frères l'autorisation de s'en aller. Ils ont été lynchés et battus à mort par les autres membres. Mais Solis et les Hernandez ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Les dissidents au projet commencent à se faire entendre de plus en plus. La grande prêtresse y voit un bon moyen de mettre en place un nouveau type de cérémonie, le rite du sang. Le sacrifié, ligoté aux cendres d'un pentacle au fond d'une grotte, est battu, mutilé et tailladé par tous les membres de la secte. Puis, il est brûlé par les frères Hernandez. Enfin, il est égorgé par la réincarnation de la déesse et se vide de son sang devant tout le monde. Le liquide est enfin prélevé dans une coupe et Solis, en transe, en boit le contenu. Le sang est, selon elle, le moyen de préserver sa jeunesse éternelle. Ainsi se passèrent 6 semaines de l'horreur, durant lesquelles 4 membres dissidents de la secte furent tués de cette manière. Chaque fois, leur cœur est extrait de leur poitrine post-mortem, exactement de la même manière que le policier retrouvé tout près de la ferme, celui qui accompagna dans la gueule du loup le pauvre petit Sébastien, qui avait pourtant réussi à s'en échapper. Je vous propose de nous quitter aujourd'hui avec un passage d'un ouvrage très intéressant qui porte sur le sujet des sectes et des gourous. Bernard Filaire est un journaliste et un essayiste qui tente à sa manière d'expliquer la pensée sectaire et ce qu'elle provoque sur celles et ceux qui en sont les victimes. Il l'exprime ainsi. La manipulation mentale déshumanisante est inhérente à tout système totalitaire. Le nazisme, comme le stalinisme, furent de formidables manipulations. Les sectes adoptent ces mêmes méthodes avec une diversité de moyens et d'applications. À la base du système sectaire, il y a pour ses membres l'absolue non-appartenance au monde. Le régime sectaire ne peut exister sans détruire non seulement la vie privée de l'individu, mais, afin que la perte de repères soit complète, et également sa vie politique et juridique. Bref, sa vie de citoyen, sa vie publique. Les frères Hernandez ont parfaitement joué leur coup. En ciblant une communauté à l'écart du monde et incapable du fait de son manque de formation de se rebeller face aux stratagèmes et aux mensonges. Ils ont eu la possibilité, sous l'autorité de la prêtresse sanglante Magdalena Solis, de développer leurs pires instincts pour le grand malheur de leurs victimes. Voilà donc pour ce récit terrifiant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.